Bonjour, je suis avec le professeur Benoît Després, qui est directeur scientifique donc de l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour, monsieur Després.
Bonjour.
Dans cet institut, qui a eu un fonctionnement traditionnel et j'allais dire sur des rails d'une certaine manière, vient à un moment donné se caler le problème actuel de la Covid-19 ou du Covid-19, comme vous préférez. Donc ça forcément mobiliser votre équipe et demander une nouvelle organisation.
Oui, alors dès on va dire la fin de l'hiver 2020, au moment où l'épidémie apparaissait, en tant qu'institut, on s'est adressé à la population qui se posait beaucoup de questions sur l'épidémie. Quel était ce virus? Est-ce que c'était dangereux? Est-ce que je devais continuer à voyager? Quelles précautions je devais prendre? Et donc, c'est une mission de l'institut que d'informer la population sur les maladies, les épidémies. Mais à la fin de cet exposé où on avait réuni donc une centaine de personnes dans le public et puis plusieurs scientifiques qui étaient au courant de ce qui se passait scientifiquement, on s'est dit entre chercheurs que notre rôle devait aller certainement plus loin que de simplement informer le public. Et qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous les outils pour peut-être apporter une solution ou une partie de la solution à cette épidémie, notamment dans la recherche d'un traitement qui permettrait de combattre la multiplication du virus chez les patients.
Donc tout le monde connaît Pasteur, célèbre, on va dire Lillois d'une certaine manière, on peut le revendiquer. Et puis aussi, évidemment, à l'origine de pas seulement des traitements, mais aussi des vaccins. Alors peut-être qu'on peut préciser ces deux domaines, est-ce sont vraiment différents ou est-ce qu'on peut travailler ensemble sur les deux?
Oui, alors pour combattre les épidémies, les maladies infectieuses, il est maintenant généralement admis qu'il faut un arsenal qui va réunir à la fois des méthodes de prévention, donc les vaccins, et puis des méthodes thérapeutiques, curatives, pour les patients qui contracteront la maladie. Donc c'est vraiment l'alliance de la vaccination et des traitements qui permet de lutter contre les épidémies.
Donc là, on va parler des traitements, puisque votre équipe a en charge de rechercher un traitement sur le Covid-19. Est-ce qu'antérieurement, il y a eu déjà des recherches sur des Covid qui n'étaient pas 19?
Alors, des Covid, le nom est nouveau, mais il y a eu des épidémies à coronavirus depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, avec le SARS qu'on a vu en Extrême-Orient, une épidémie qui a été rapidement maîtrisée. Mais pour lequel le virus est extrêmement pathogène et le taux de mortalité très élevé. Et puis plus récemment le MERS, dans le bassin arabique, où là on a aussi un virus qui est faiblement transmis, notamment parce qu'il rend les patients extrêmement malades et avec un taux de mortalité très élevé.
Donc ce traitement qui reste à venir, enfin on n'en connaît pas réellement officiellement efficace, il est encore à l'état de recherche et ensuite d'élaboration, ça prend du temps.
L'élaboration d'un traitement, c'est quelque chose qui, habituellement, dans une situation qui n'est pas une situation d'urgence, prend au minimum 10 ans et quelquefois jusqu'à 25 ans. D'une part, il y a des étapes d'études de la maladie pour savoir par quel angle on peut l'attaquer avec un médicament. Une fois qu'on a cet angle, ce mode d'action, on conçoit une molécule, ça prend encore quelques années. Ensuite, on développe la molécule, c'est-à-dire qu'on va d'abord, dans des modèles qui ne sont pas l'humain, essayer d'évaluer son efficacité et sa toxicité. Et si on pense que le rapport risque-bénéfice est favorable, à ce moment-là, on fait des essais cliniques qui, eux, également, durent des années pour apporter les preuves du rapport risque-bénéfice chez l'homme.
Donc cette recherche, elle se fait dans des laboratoires, forcément. Est-ce que ces laboratoires sont à la fois publics et privés? Est-ce qu'il y a une collaboration entre les deux?
Là, je vais parler en termes généraux. Les étapes d'amont de cette recherche de nouveaux médicaments est réalisée souvent dans des laboratoires académiques où on travaille, où des médecins travaillent avec des biologistes, qui travaillent avec des chimistes pour étudier les maladies et trouver cet angle d'attaque. Ça, c'est de la recherche assez fondamentale. Ensuite, on a des laboratoires qui continuent à inventer dans le milieu public des médicaments. Et le développement de ces médicaments, qui coûtent de plus en plus cher, plus on avance vers l'autorisation de mise sur le marché, le développement, lui, va être fait par des sociétés de biotechnologie ou des grandes industries pharmaceutiques qui ont les moyens nécessaires pour réaliser ce genre de recherche, ce développement qui coûte souvent plusieurs dizaines, voire centaines de millions.
Nous sommes toujours avec le professeur Benoît Després, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille. Donc, quand on parle d'un médicament, souvent, dans ce médicament, il y a un principe actif et il y a beaucoup de principes actifs qui existent. Est-ce que vous les avez tous en collection ?
Oui, alors c'est justement un des atouts que nous possédions sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille, où une start-up est implantée, elle s'appelle Apteus, et qui a établi une collection de tous les principes actifs des médicaments dans le monde. Donc c'est presque 2000 principes actifs isolés dans des tubes à essai que l'on peut donc tester in vitro dans des modèles de maladies. C'est ce qui a été fait dans le cas de la COVID-19.
Donc quand on n'a pas 20 ans pour résoudre un problème, on essaie de voir dans le stock, on va dire, existant, ce qui peut être mobilisé pour contrer ce virus.
Voilà. Et donc quand je parlais tout à l'heure de cette réunion de chercheurs, très tôt en février 2020, on s'est dit, on a une collection de principes actifs, on sait comment cultiver le virus in vitro. Maintenant, on a à notre disposition le virus natif, celui qui infecte les patients, des cellules dans lesquelles il peut se multiplier. Eh bien, on peut essayer de tester les milliers de principes actifs sur du virus se multipliant in vitro. Et on avait toutes les infrastructures pour faire ce travail, notamment pour manipuler le SARS-CoV-2, donc responsable de la COVID-19. Il faut un laboratoire de type P3, donc qui est un laboratoire de haut confinement, dans lequel on peut manipuler sans risque ce virus. Et à l'Institut Pasteur de Lille, nous avons un tel laboratoire P3.
Voilà, donc dans ce laboratoire, on teste sur des virus, des molécules, on va dire des principes actifs. Et quand est-ce qu'on expérimente sur des humains? Enfin, peut-être avant sur des animaux, je ne sais pas. Et en ce moment, où vous en êtes et vous avez besoin de quoi?
Alors, on a, avant de pouvoir aller chez l'homme, il faut prouver que si on expose des humains, des patients, à une molécule nouvelle ou ancienne, dans une pathologie donnée qui est nouvelle pour cette molécule de toute manière, comme la COVID-19, il faut apporter des éléments tangibles, scientifiques, de ce rapport risque-bénéfice. Donc il faut avoir prouvé que la molécule empêche bien la multiplication du virus, ce qu'on veut faire chez l'homme plus tard, et que son usage chez l'humain ne sera pas associé à trop de risques par rapport à la pathologie. Et en l'occurrence, la COVID, au moment où on doit la soigner, on doit soigner la maladie virale avec un antiviral, c'est une maladie qui est peu grave. Au moment où le virus se multiplie le plus, là où on veut l'attaquer avec un antiviral, c'est le début de la maladie, et en général, les patients ne sont pas très malades. Ils toussent un peu, ils ont un peu de fièvre, et c'est tout ce qui se passe. Et seulement, même pas un patient sur 10 va s'aggraver, et un patient sur 20 va aller à l'hôpital. Donc on ne peut pas exposer à un risque important à un traitement initial, des patients qui, pendant la grande majorité, n'iront jamais à l'hôpital. Donc le rapport risque-bénéfice attendu pour une molécule antivirale dans la COVID-19 est extrêmement élevé, parce que seule une petite partie de la population qui sera traitée irait à l'hôpital si elle n'était pas traitée.
Donc cette population que vous recherchez, elle est sans doute rare. Peut-être que les médecins traitants ont quelques idées sur qui ils pourraient vous proposer, les hôpitaux peut-être aussi. Comment ces personnes-là, on peut les sensibiliser au fait qu'ils puissent apporter quelque chose à la science? Et est-ce que cette expérimentation, elle se fait en double aveugle, c'est-à-dire une partie qui est traitée avec en gros rien et une autre avec le principe?
Voilà, pour apporter une preuve, vu que maintenant on a montré aux autorités de santé, au comité de protection des personnes, à l'agence du médicament, que la molécule a une bonne efficacité, qu'on attend une grande sécurité, on peut aller chez l'homme. Et pour faire la preuve la plus parfaite que la molécule fonctionne, il faut faire une vraie expérience scientifique avec des patients. Et la meilleure preuve, c'est de comparer le médicament que l'on pense actif à un placebo. Donc un médicament qui a exactement la même forme, en l'occurrence ici c'est un suppositoire dans ce qui nous concerne, dans lequel il n'y a pas de principe actif. Et ni le médecin qui prescrit, ni le patient ne savent s'ils reçoivent le médicament ou le placebo. Seulement un ordinateur dans lequel il y a une base de données avec des numéros permettra de mettre en face de chaque patient l'identité du traitement qui a été donné, soit le placebo, soit le médicament actif. Et on va pouvoir comparer l'efficacité.
Donc pour ces patients qui sont volontaires, comment ça se passe ? Est-ce qu'on les met au courant des conditions, voire des risques ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les motiver ? Parce qu'en fait, aider la science, c'est quand même beau.
Alors, en effet, participer à un essai clinique, c'est participer grandeur nature à une expérience scientifique dont le design a été complètement validé par des agences, par des gens, les comités d'éthique. Donc c'est très bien borné. En l'occurrence, pour notre étude, il nous faut 680 patients pour démontrer avec une bonne certitude que le médicament fonctionne. On a réussi à mobiliser les médecins, des équipes qui ont fabriqué le médicament, les agences qui ont évalué nos dossiers. La dernière pierre à l'édifice, et c'est pas la moindre, c'est d'arriver à motiver les patients à participer à l'étude, parce que sans eux, on ne peut pas atteindre le résultat scientifique qui permettra de faire de ce médicament, on l'espère, une pierre importante dans l'arsenal contre la Covid-19.
Merci, alors bonne chance collective.
Merci.
Nous étions donc avec le professeur Benoît Després, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille, pour réaliser son projet Thérapide, labellisé Priorité nationale de recherche, qui a reçu l'avis favorable de l'ANSM. L'équipe est donc à la recherche de personnes volontaires pour réaliser les essais de ce traitement qu'elle voudrait faire valider par ses autorités. Profil recherché, personne de plus de 50 ans, non vacciné, en début de maladie Covid avec un test positif. Si vous êtes concerné et motivé par cette participation, n'hésitez pas à en parler à votre médecin et à vous renseigner sur le site pasteur-lille.fr à la page recherche Covid-19. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.